Salut, moi c'est Niki.
Moi c'est Bi.
Bienvenue dans le podcast Madame Attrape ton cœur.
Pour cette série Partir mais à quel prix, nous vous invitons à découvrir les témoignages de personnes ayant quitté leur pays pour poursuivre leurs études. Elles partagent avec nous la préparation du départ, le choc de l'arrivée sur le plan social, administratif et culturel, l'adaptation à un nouvel environnement, les difficultés rencontrées, ainsi que les conseils et recommandations si c'était à refaire.
L'être humain cherche l'endroit où il peut survivre. C'est un droit pour les gens d'aller survivre ailleurs. Ils vont venir avec leur bagage identitaire, du moins ce qu'il en reste, parce que les gens ne sont pas des coquilles vides. Ils s'adaptent en restant un peu eux-mêmes, parce que c'est tout ce qu'il leur reste, ce petit bout d'identité. Ce texte est une interview de Leonora Miano, que nous trouvons pertinent pour les récits qui vont suivre. Bonne écoute.
Je suis arrivé au Canada en 2008 et j'avais 18 ans. Donc pour moi, ça s'est fait très vite quand même parce que entre le moment où j'ai fini mon examen du baccalauréat et le moment où je suis arrivé au Canada, il s'est pas passé 3 mois. Donc j'étais encore aux études, quoique c'était les vacances, mais oui, j'étais aux études, j'ai pas eu le temps de travailler ou de connaître trop les autres milieux en Haïti, à part le milieu scolaire ou le milieu des formations classiques. Je suis venu au Canada dans le cadre de mes études, étant le premier né de ma famille, donc j'étais le premier à faire cette expérience d'aller à l'université. Et ma mère étant une mère poule, elle a décidé de venir avec moi en amenant mon petit frère et ma petite sœur. Donc c'était pour mes études, mais finalement c'est devenu une immigration familiale. Par rapport au Canada lui-même, j'ai demandé très peu de conseils et j'ai fait très peu de recherches pour la simple et bonne raison que je venais déjà ici assez souvent, et un peu plus jeune, et j'allais aussi aux États-Unis, qui est une société à peu près similaire, sur certains points, bien entendu, pas sur tout. Donc, je jugeais peut-être à tort, que je savais déjà qu'est-ce qu'il en était, donc j'ai pas jugé bon de demander des conseils par rapport au pays lui-même. Par contre, en ce qui concerne les universités, j'ai quand même parlé à beaucoup de gens et j'ai aussi fait beaucoup de recherches sur Wikipédia. Je me rappelle que je regardais souvent parmi les universités montréalaises, c'est quelle université où il y avait les gens les plus notables pour que je puisse m'inscrire. Ouais, je pense en gros c'était ça. Je ne sais pas si dans mon cas il y a eu une annonce officielle, ou si toutefois ce fut pas quelque chose de solennel. En ce sens que, ma mère et moi, comme nous sommes très proches quand même, on préparait vraiment, mon départ d'Haïti depuis quelques années avant. Et mon examen du bac, donc on réfléchissait sur beaucoup d'options. Il y avait peut-être la France, les États-Unis et l'Angleterre aussi. Et finalement, nous avons choisi le Canada pour des raisons qui sont, je dirais, plus de l'ordre économique, parce que le Canada, dans ce temps-là, accueillait des gens beaucoup plus facilement. C'était beaucoup plus facile d'avoir je parle des professionnels qualifiés, et comme ma mère, d'avoir une résidence, donc elle pourrait être là pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle le Canada a été le choix final. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un effet d'annonce que j'allais partir. L'effet d'annonce, c'était plutôt le choix du pays en tant que tel. Est-ce que j'étais content? Non, je dirais pas que j'étais content. J'étais heureux. J'étais heureux, finalement, d'aller vivre dans un pays, honnêtement. Mais oui, c'était vraiment le sentiment que j'avais. J'étais vraiment, vraiment en extase. À l'aéroport, il s'est passé quelque chose que dans ce temps-là que je considère anecdotique, que je pense qui est anecdotique dans la mesure où ce fut un événement très 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 ponctuel, mais ça mettait déjà les bases par rapport au parcours que ça allait prendre pour s'intégrer dans la société. Donc on est arrivé, ma mère avait de la nourriture de notre pays dans ses valises, ce qui est la nourriture autorisée. On nous a mis dans une salle. Il y avait beaucoup de questions. Pourquoi vous transportez ça? Pourquoi vous êtes venu ici au Canada? Ce fut quand même une longue entrevue, je dirais, de quasiment une heure et demie, deux, avant qu'on ne nous laisse partir. Dans ce temps-là, je blâmais beaucoup ma mère parce que je disais, ah, pourquoi tu fais ça? De toute façon, on vient dans un autre pays, oublions tout ça. Mais bon. Et oui, à l'aéroport, il y a quelqu'un qui nous attendait. Il y a quand même une grosse communauté haïtienne. Je pense que ça peut aider. J'allais dire que ça aide, mais ça peut aider. Tout comme ça peut nuire. Je vais voir les autres questions pour voir pour expliquer plus dans quelle mesure que ça pourrait nuire qu'il y ait une grosse communauté de ton pays d'origine et dans ton pays d'accueil. Mais oui, on avait des amis de ma mère qui nous attendaient. Justement, pour le logement, je pense qu'il est de notoriété publique que quiconque a déjà été à Montréal ou qui a passé beaucoup de temps à Montréal quand même, sache que les Haïtiens sont très nombreux, surtout dans certains quartiers à Montréal. Je vais pas citer les noms pour ne pas stigmatiser plus des quartiers à tort. Et oui, dans ces quartiers-là, justement, il y a une concentration élevée d'Haïtiens. Donc, notre premier logement était supposé être dans l'un de ces quartiers-là. Et notre première journée, on devrait aller là-bas. Je pense, dès qu'on est descendu, la personne qui était venue nous chercher n'était pas celle qui avait réservé la maison pour nous. Donc, dans la voiture, la personne qui était venue nous chercher nous disait ouais mais nous disait beaucoup plus à ma mère que oui mais tu vas installer ton enfant dans ce quartier alors que c'est un mauvais quartier, il ne va pas vouloir aller à l'université, il va plus vouloir comme le disent les Français entre guillemets zoner et rentrer dans des trucs louches. Donc la situation du logement qui devrait être simple au début est devenue très compliquée. Ma mère a pris de panique, elle a demandé d'annuler le logement, ce qui ne fut pas le cas. Donc, elle a dû payer quand même, mais on a dû changer de quartier finalement. Parce que son ami qui était venu la chercher à l'aéroport lui a dit que ce n'était pas nécessairement la meilleure des idées d'aller vivre dans ce quartier-là. Déjà que nous sommes vraiment frais, donc ce serait pas une bonne idée pour moi. L'été à Montréal, je dirais que c'est magique. Et d'autant plus que j'ai trouvé que comparativement à beaucoup d'autres villes que j'ai vues, Montréal c'est très propre. Non, l'été à Montréal c'est très beau. Moi je trouve l'été à Montréal magique. Dans le sens qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est une ville relativement sécuritaire. Comme c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. J'ai bien pris l'été. Par contre, et en automne, c'est la première année que j'ai passé ici, l'automne, ce fut la première fois que je voyais vraiment l'automne. Parce que même quand je venais ici, mais je venais pour les vacances d'été, donc après il fallait que je retourne à l'école. Donc c'était la première fois que je voyais l'automne. Le début de l'automne, j'étais content, ce fut quelque chose de nouveau pour moi. Dans le sens où c'est la première fois que je voyais les feuilles changer de couleur, etc. Ce fut très beau, très... Je sais pas comment l'exprimer, mais ce fut une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience, une agréable surprise. Par contre, vers la fin de l'automne, où il pleut à tous les jours, où les jours la partie de la journée où il y a du soleil, ça devient de plus en plus courte, désolé. J'ai commencé à ressentir une certaine mélancolie. Et ceci m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, la fin de l'automne, je ressens toujours une espèce de mélancolie, une tristesse. Après, pendant la période des fêtes, vers Noël, quand il y a la neige, les premières neiges, tu ressens un regain d'énergie pour replonger ensuite. Oui, l'expérience de l'hiver où quasiment tu passes l'hiver à l'intérieur, si t'es pas un adepte de sport d'hiver, c'est sûr que tu vas passer l'hiver à l'intérieur comme un prisonnier. Et venant d'un pays tropical, il faut vraiment que tu fasses l'effort de faire des sports d'hiver. C'est pas quelque chose qui te vient comme ça du fait de ton, je veux dire, utiliser mon anglais, de ton upbringing. J'ai été très chanceux d'être parti avec ma mère, donc dans mon cas, c'était pas difficile de qu'elle puisse voir mon évolution et qu'elle puisse comprendre certaines expériences. Même quand on vivait ensemble, est-ce que je la racontais nécessairement mon expérience dans les détails? Non. Mais on était quand même ensemble, donc c'était pas... on n'était pas si éloignés que ça. À part ça, ma famille plus éloignée, du fait de la structure même que mon père et ma mère ont donné à ma famille éloignée, ça reste quand même éloigné dans une bonne mesure. Dans mes premières années, et peut-être même un peu aujourd'hui, mais dans un degré moindre, la perception qui arrivait toujours et qui me dérangeait, et ça c'est surtout d'un point de vue de sensibilité personnelle, et j'en conviens, c'était surtout que t'es toujours considéré comme le gros gars noir, tu comprends, c'est des fois ça peut être pour parce que t'es le gros gars noir menaçant ou tu fais peur, alors que je suis très gentil. Non, je plaisante. Ou t'es le gros gars noir. Ce fut souvent ça comme perception. C'est comme juste un corps. Ou même des hommes plus vieux. Ils te considèrent comme, peut-être comme un noir américain du ghetto, comme ils voient dans les films, etc. Donc, ils t'assimilent directement à ça. Et encore une fois, c'est peut-être quelque chose de très personnel au niveau de ma propre sensibilité. Mais c'est comme ça que je sentais que j'étais perçu. D'autant plus que dans ce temps-là, j'avais 18, 19, 20. J'étais en forme physiquement. Donc, c'était tout ce qui sautait à l'œil. Et ça, je dirais que ça confirmait le biais de certaines personnes vis-à-vis de leur perception de la perception de certaines choses. Donc c'est ça, je pense que c'était beaucoup perçu comme ça, le gros gars noir qui peut aider à déménager, qui peut faire peur, qui peut être l'objet de désir. C'était beaucoup ça. Pas installé justement, et toute l'histoire du logement et je suis derrière moi, à l'école, comment ça se passe déjà avec les camarades? Je sais pas si c'était un choc ou si j'étais impressionné, mais c'était différent dans le sens où j'étais habitué à être dans un milieu extrêmement homogène où tout le monde littéralement me ressemblait ou qu'on avait des références communes. Et là, je me retrouvais avec diverses personnes avec qui j'ai très peu de références communes. Donc ça, ce fut le premier... Oui, je pourrais l'appeler un choc. Ce fut le premier choc pour moi. D'ailleurs, avec le temps, nous sommes créé un groupe d'amis et de camarades à l'UDM, à l'Université de Montréal, et on s'appelait les Nations Unies. Et ce fut pour moi le premier choc. L'autre chose que je dirais aussi, c'était avec les profs, ça se passait bien, mais c'est pas plus les profs, moi je dirais c'était le système. Ou encore une fois, j'étais habitué à un système très, je dirais quasi militaire, où je raconte souvent cette histoire. La première fois que j'ai su que je pouvais abandonner un cours avant la fin sans que j'aie la mention d'échec, ça a changé ma vie. Donc c'était plus l'organisation de l'université en tant que telle et la diversité des gens avec la cette diversité là, j'étais pas nécessairement habitué à la diversité. C'était plus le gros choc pour moi et aussi bon, dans ce temps-là, j'ai pas vu comme un choc nécessairement les immigrants se tenaient entre eux et les Canadiens et les Québécois d'origine se tenaient entre eux aussi. Donc, il n'y avait pas beaucoup ce mélange entre, je dirais, locaux et nouveaux venus. La perception, je dirais pas que j'ai ressenti une perception unique. J'ai ressenti plusieurs types de perceptions dépendamment des groupes de gens et, je dirais, de leur milieu social aussi au pays. Il y a un groupe qui t'écrivait pour te demander des choses, pour te demander de l'argent, etc. Ben ça c'est le gros cliché, mais c'est quand même une réalité. Il y en a d'autres par contre que je pense. Alors, c'est mon appréciation personnelle. Après, je peux me tromper. Qui ont eu une espèce de sentiment, un complexe d'infériorité. Je m'exprime dans le sens où on était amis, des choses qu'on se disait quand on était en Haïti. Si maintenant j'ai les mêmes positions, ça devient que je suis arrogant. Je pensais quoi? Est-ce que c'est parce que je suis parti que je pense que je peux me mettre en leader ou quoi que ce soit? Donc, oui, je pense que ma perception, est différente d'un groupe à l'autre. Il y a eu aussi des groupes d'amis aussi avec qui c'est resté très stable et c'est resté très raisonnable. Donc, je peux pas dire que toute mon expérience et ma perception, de leur perception de moi fut toujours négative. Mais oui, il y a la perception la plus marquante que j'ai eue, c'est que c'est cette espèce de complexe d'infériorité, comme maintenant, dès que je m'exprime, je dois faire attention pour ne pas froisser les sentiments de quelqu'un. Parce que soudainement, je deviens autre chose. Venant d'un système extrêmement compliqué, même quand tu es à l'heure et que tu dois soudoyer quelqu'un pour qu'il puisse te donner des papiers, tu ne les reçois même pas à l'heure que tu devrais les recevoir. Et l'expérience administrative au Québec fut un 10 sur 10. En autant que tu sois dans les temps et que tu fasses tes choses à l'heure qu'il le faut, tu devrais pas avoir de problème. J'ai pas eu de problème, j'ai jamais entendu des gens qui ont fait leur due diligence à temps, qui ont eu des problèmes. Pour moi, l'expérience administrative au Québec fut un 10 sur 10, et même dans certains cas, il y a même la considération humaine. Encore une fois, il faut que tu le fasses dans les temps. Ou si t'es un retard ici et que tu peux expliquer le retard, ils peuvent donner des sursis, etc. J'ai vraiment rien à redire de ça. J'ai trouvé que le Québec est bien en ce sens-là. Alors, ça remonte quand même à longtemps. Je sais peut-être que ça a pu changer. Mais dans ce temps-là, ça allait comme sur des roulettes. Les sorties, je t'invite. Alors, je vais prendre, je t'invite dans le sens, je paie pour toi. au fait, il faut dire que majoritairement au Canada et encore plus particulièrement au Québec, ça n'existe pas. Quand je dis ça n'existe pas, j'essaie d'être choquant, mais ça existe très peu. Et de dire à quelqu'un, je vais payer pour toi pour une invitation. La majorité des invitations qu'on t'invite au Québec, sache que tu dois payer pour toi-même. Et c'est encore plus vrai pour un homme moyen que j'étais. Donc, je ne pense pas que j'avais tant d'invitations, je t'invite que ça. Sinon, il y avait un ami, une famille amie dont le fils, on a à peu près le même âge, qui était venu ici peut-être 2-3 ans avant moi, donc il avait quand même son réseau et qui me présentait. C'est comme ça que j'ai commencé à connaître les gens aussi, mis à part l'université. À l'extérieur de l'université, c'est lui qui me présentait vraiment beaucoup à son réseau dans le quartier où on s'était installé. Je t'invite dans ce sens-là, oui, mais je t'invite dans le sens je paie pour toi. Au Québec, c'est plus compliqué. Il se pourrait que quelqu'un d'autre ait vécu une autre expérience, mais c'est quand même plus compliqué. J'ai toujours su que j'étais noir. C'est très présent dans l'imaginaire collectif haïtien. La majorité des Haïtiens vont toujours avoir ce sentiment qu'ils se sentent noirs, etc. Et de la part de notre histoire. Donc ça, je l'ai toujours senti. Et je ne dirais pas que j'ai vécu une situation au Québec où vraiment cette situation tombait sous le coup de la loi comme étant raciste. Mais par contre, il y a eu quelques événements qui m'ont marqué. Et je me rappelle, à l'époque encore, il y avait les cybercafés, etc. Et j'avais 18 ans. Je suis parti au cybercafé dans ce temps-là. Il y avait, c'est quel jeu qu'il y avait, je pense. Je me rappelle plus. Mais je suis parti au cybercafé. J'ai passé peut-être 4-5 heures au cybercafé. Il se faisait quand même tard. Il était vers 9h30-10. C'était un cybercafé à peu près, je dirais, à 900 mètres de marche de mon appartement de l'époque. Et je sors de cybercafé. Soudainement, je me fais, il y a des policiers dans leur voiture qui me suivaient. Ils me suivent. Après, ils mettent, les gyrophares. Ils m'arrêtent. Ils me disent, la raison pourquoi on t'arrête, c'est parce que on a eu un signalement d'une bagarre et tu corresponds au suspect. Moi, j'ai jamais eu affaire avec la police. Jamais, jamais, jamais de ma vie, même maintenant que je suis plus vieux, j'ai jamais eu de problème avec la police. Là, je commençais vraiment à suivre de partout. Ils disent que le signalement, le gars te ressemble et il va falloir qu'on t'embarque. Moi, j'ai dit non, je viens du cybercafé. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était extrêmement arbitraire parce qu'il ne savait même pas. Et finalement, il dit, oh oui, donne-nous la preuve que tu venais du cybercafé. Donc, je te leur montré mon reçu. J'ai dû repartir là-bas et parler au gars qui gérait le cybercafé dans ce temps-là pour lui dire que je viens de passer 4 heures ici. Et c'est quasiment impossible que je sois en 2 endroits au même moment. Donc, oui, ce fut mon baptême de feu. J'avais 18 ans. Je ressemble pas à quelqu'un de méchant là, mais bon. Il y a eu cet événement là, il y a eu un autre événement qui m'a quand même marqué, un peu moins spectaculaire que celui-là. C'était, on était dans notre groupe d'amis justement qu'on appelait les Nations Unies et qui réunissait beaucoup de d'ethnies, de nationalités. Et une fois, nous étions tous assis, et, je sais, les jeunes parlent souvent de leurs préférences, etc. Donc, il y a eu une Québécoise blanche et une Québécoise, je dis Québécoise de par leur culture, une Québécoise métisse qui était dans le groupe aussi. Alors, les deux... Les deux se sont dit, ouais, mais oui, moi, j'aime bien les noirs, mais je préfère les métis. Et on dit, ok, mais c'est parce que les métis, ils ont l'intelligence des blancs et le physique du noir. Ça m'avait vraiment marqué parce que Il y a des gens qui se définissent par leur physique, il y en a d'autres par leur intelligence, il y en a d'autres un mélange des deux, etc. Dépendamment de comment tu te définis toi-même, il y a des choses qui vont plus te marquer que d'autres. Et je trouvais que cette essentialisation du physique du noir, ça m'avait très dérangé. Mais bon, et la troisième anecdote que j'ai, du temps que j'étais étudiant, j'avais un emploi à temps partiel parce que c'est quelque chose de très courant au Québec, au Canada, aux États-Unis, que quand t'es étudiant, pour payer certaines choses, faire des sorties, tu prends un petit emploi à temps partiel pour pouvoir payer tes trucs. Donc, j'étais avec des Québécois, je dirais, des Québécois blancs. Donc, à l'heure de la pause, je ne me rappelle plus comment, elles ont vu la photo d'un bébé noir. Donc, on était assis là. Elles regardent le bébé, elles disent « Ah, le bébé est tellement beau, mais ils sont tellement beaux quand ils sont jeunes, mais c'est quand ils grandissent qu'ils deviennent des problèmes. » Mais bon, c'est ce genre d'histoire qui me sont arrivées. Après, plus tard, un peu dans ma vie, il y a eu de petites histoires, anecdotes comme ça. Mais jamais de trucs qui soient, comment dire, qui soient clairement identifiés comme ça. Ou du moins, je l'ai jamais vécu de façon frontale. Peut-être que dans les coulisses, ce fut le cas, mais j'ai jamais vécu de façon frontale. Mais des petites choses comme ça, d'essentialisant, oui, c'est des choses. Et là, c'est trois anecdotes que je raconte, que j'ai vécu peut-être durant la première année de mon arrivée ici, vu que c'est le sujet. Si c'était à refaire, c'est toujours compliqué pour moi de répondre à cette question. Parce que là, aujourd'hui, j'ai des informations que j'avais pas dans le passé et que je ne pouvais pas avoir de façon raisonnable, donc que je n'aurais pas eu de toute façon. Donc c'est difficile pour moi de mettre dans cette position-là où je suis aujourd'hui et dire qu'est-ce que je referais dans ce temps-là. Par contre, si j'ai un conseil à donner, un conseil de la part d'un ancien, quelqu'un qui a déjà fait la route et qui a fait l'expérience, et qui a vu le résultat d'autres personnes aussi. Je dirais que quelqu'un qui vient d'un système où l'emploi étude n'est pas la norme, de faire très attention aux emplois étudiants. Les emplois étudiants, surtout au Québec, aux États-Unis, ça peut être autre chose. Moi, je parle nécessairement du Québec. C'est que ça peut être perçu comme une vertu ou ça peut être une vertu aussi. Au lieu de s'asseoir et ne rien faire, vous allez travailler, etc. Par contre, ça peut être aussi nocif dans un certain sens où ça crée une distraction par rapport à ton objectif si t'es pas habitué à ce genre de système. Alors, les gens qui sont habitués, ils savent pourquoi le système est fait comme ça. Ils le conçoivent de la façon la plus optimale pour eux. Par contre, quelqu'un qui n'est pas habitué à ce système-là, qui vient tout juste de faire son bac et qui rentre à l'université et que tu mets tout de suite au travail, déjà, sa concentration ne va pas être la même. Et deuxièmement, les payes aux deux semaines peuvent devenir facilement une distraction. Et tu te dis, ah oui, maintenant je fais de l'argent, etc. Et que ça devient une distraction par rapport à ton objectif ultime. Si toi, ton objectif ultime, c'est le côté académique et d'avoir une certaine réalisation au niveau académique, c'est mieux que tu te sacrifies ces 3-4 ans d'études que tu les consacres uniquement aux études. Je te dirais au moins tes deux premières années de ne pas travailler. Alors, je sais que c'est difficile, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, et il y a des circonstances particulières, mais moi je conseillerais à tout le monde qui pourrait se le permettre, d'autant plus au Québec, il y a beaucoup de programmes de bourse et du gouvernement, donc d'essayer de voir ce genre de programme avant de penser à rentrer dans des emplois, de commencer à assimiler comment le système fonctionne avant de rentrer dans des emplois. Et parce que ça peut vite devenir une distraction.
Bon, c'était nous. Espérons que vous avez apprécié ces témoignages de la série « Partir, mais à quel prix ?». N'hésitez pas à nous partager votre opinion, vos témoignages aussi, et réagir sur cet épisode. Merci, à bientôt.